Anne, merci beaucoup pour la musique. Je mange un coup de vieux ce soir. Est-ce que tu réalises que Raphaël et Laurie sont les arrière-petits-enfants d'un ancien avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler comme ancien dans l'Assemblée? Voilà 40 ans. Ça, c'est dans les bons vieux jours. On ne parlera pas de ces jours-là. Bien, je suis contente que notre frère Jean-Mathieu Chénier, que je connais depuis longtemps, mais je ne suis pas capable de dire son nom. C'est ça, Chénier.
Chériné.
Bon. Jean-Mathieu vit en Haïti. Il travaille avec les cours par correspondance EMAIS. Et j'ai déjà visité l'Haïti pour être conférencier à leur Colossien de grade. Ils ont 80 000 élèves en Haïti dans les cours bibliques. Mais... Puis Jean-Mathieu travaille avec moi dans la littérature pour l'Haïti, puis je suis bien content de l'avoir comme ami. Mais Jean-Mathieu a survécu à ce grand tremblement de terre dont vous avez entendu parler. Et son témoignage est très intéressant. Puis je pense qu'il est avec nous aujourd'hui, puis il ne faut pas manquer l'occasion d'écouter qu'est-ce que le Seigneur a fait en ce grand jour du tremblement de terre pour lui et ceux qui sont responsables du ministère de Maïs là-bas. En Haïti, on lui donne une 8 minutes pour parler du tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Puis 2 minutes pour nous parler du ministère de Maïs, pour qu'on puisse prier pour lui. Puis on finira 10 minutes en retard, que voulez-vous, c'est pas grave. Il n'y a rien de bon à la télévision au mois d'août, alors. Hein? Hockey est fini, ben.
Mes chers amis dans le Seigneur, bonsoir. Et je voudrais commencer avec ces paroles que le psalmiste a écrites dans le psaume 118, au verset 17. Parole qui dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » En effet, mes chers amis, le jour du 12 janvier, en me réveillant de très tôt, je ne me retrouvais pas. Parce que j'ai le pressentiment que quelque chose allait se produire. D'ordinaire, je travaille avec Emmaüs et je travaille aussi comme enseignant dans le pays. Je passe au bureau, comme d'habitude, et après, je me dirige vers une école pour dispenser des cours. Arrivé, j'ai dispensé réellement le cours, mais à la fin du cours, je finis par réaliser que les élèves n'ont rien compris. Parce que... les élèves, je n'ai pas eu du tout leur attention en ce jour-là. Et pour moi, c'est comme... une matinée perdue. Mais avant de retourner au bureau, et le directeur de l'école m'a fait passer à la direction parce que j'ai le chèque du mois de décembre que je n'avais pas pris parce que j'étais à Montréal de très tôt. D'habitude, je dépose le chèque sur mon compte. J'ai passé à la banque. Au lieu de le faire, j'ai dû me rendre à la banque qui a émis le chèque pour le changer. Bon, ce que je ne fais pas d'habitude. Et j'ai placé l'argent dans le coffre de ma voiture, me dirigeant vers le bureau. En cours de route, une autre idée m'est montée en tête. J'ai appelé un autre collègue qui travaille aussi comme avocat qui a son cabinet au centre-ville, pour lui dire que j'aimerais avoir une réunion avec lui dans l'après-midi. Il m'a proposé 4 heures. Car lui, il devrait laisser son cabinet à 5h30. Sa voiture en panne, il devrait attendre son petit frère qui revenait lui aussi de son travail. Donc, on a conclu 4 heures. Et à 4 heures, il s'est rendu réellement au bureau. Lui et moi et un autre collègue, nous trois, nous étions ensemble en train de bavarder un peu avant d'entreprendre la réunion. Parce que c'était notre rencontre, notre première rencontre, et après mon retour de Montréal, et le collègue qui est avocat, lui, il était à son retour, lui aussi, des États-Unis, car il participait à la graduation d'un de ses fils aux États-Unis. Après, il était environ 4h40, pour cesser le bavardage, j'avais conclu que d'après tout ce que nous avons vu passer dans le pays, d'après le comportement des dirigeants, tout ça, j'avais conclu que toutes les conditions sont réunies pour que quelque chose de désastreux passe dans ce pays. C'était vraiment une parole prophétique parce que je ne savais d'où sortaient ces paroles en ce moment-là. Et même les autres se mettaient à rire. Mais celui qui est avocat, il a dit, « Mon cher Mathieu, tu as raison. Parce que je partage ton avis. Parce que je lis les mêmes choses. Je fais la même lecture des choses que toi. » Et après, on allait prier pour débuter avec la réunion formelle. En ouvrant la bouche pour prier, la maison se mettait à secouer. La maison se mettait à secouer. Mais d'habitude, je pense, bon, j'ai dit à ses collègues, ah, il s'agit d'un tremblement de terre. Ils ont dit, oui, c'est ce que nous voyons. Mais d'habitude, pour nous, c'est rien n'était parce que nous avons l'habitude de voir des tremblements de terre qui passent et qui durent une seconde et demie, ainsi. Même 3 secondes de tremblement de terre, nous n'avons jamais l'habitude de vivre ça. Et cela n'a pas cessé. La maison secouait encore. C'est comme si on voit que la maison est plongée. Elle s'est relevée. Pour une deuxième fois, la même action est répétée une troisième fois. Pour la troisième fois, les deux collègues ont dû se relever pour tenir le linteau de la porte avec le nom de Jésus dans leur bouche. Et moi, comme si j'ai été cloué où j'étais, où j'étais assis, au bord de la table avec la main droite, crispée, excusez-moi, à mon visage. Et franchement, j'étais réellement d'accord que j'allais mourir. J'ai accepté. Et j'ai dû faire ma dernière prière en disant, « Seigneur, je remets entre tes mains mon esprit. » Parce que je n'avais vu aucune porte de sortie en ce sens, en ce moment-là. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas comment a été dehors. Après, ça a duré près de 35 à 40 secondes. Et en sortant au dehors, on avait vu que des poussières dans l'air. Deux maisons à côté de nous sont effondrées. Ah! On ne savait quoi faire. Ma première réaction était d'appeler ma femme pour savoir comment est la situation chez nous, parce que j'ai ma femme et deux enfants avec elle, une fille de 4 ans qui va avoir 4 ans en novembre et une autre fille qui va avoir 1 an en novembre. Et malheureusement, il n'y a pas eu de communication. Toute communication était coupée. J'ai pris un premier portable avec une première compagnie. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de contacter une autre compagnie. Ça n'a pas marché. J'ai dû me rendre chez moi tout de suite. Et j'ai même oublié la clé de la voiture dans la maison et je n'y rentre pas parce que je ne savais pas ce qui allait produire plus loin. Donc, je suis obligé de me rendre à pied chez moi. Et ce n'était pas seulement moi comme ça, parce que presque tout le monde s'était obligé de se rendre à pied chez eux parce qu'on s'affolait tous. Au dehors, on voyait comment des maisons sont effondrées et je traverse pas mal de cadavres pour arriver chez moi. Et de loin, déjà, j'ai aperçu le toit de la maison. J'ai dit, ah, la mienne est encore là. Et ça, ce qui vraiment m'a redonné la force parce que d'habitude, en revenant de l'école, parce que ma femme, elle, est jardinière d'enfants, et elle se couche d'habitude avec les enfants dans la maison, en revenant de son travail. Et de là étant, lorsque j'ai vu ma femme avec les deux enfants, la plus petite, dans ses bras qui m'attendaient. Donc, la paix m'est revenue de toutes les manières. Mais elle m'a accueilli avec des larmes aux yeux et que je peux traduire moi-même comme des larmes de reconnaissance parce que notre Dieu, lui, il est fidèle. Ce que je réalise, c'est que Dieu choisit aussi les événements pour convaincre certains cœurs. Parce que, avec le passage du tremblement de terre, je réalise que beaucoup d'âmes sont venues à la repentance après ce passage. Et ça fait de toutes les manières notre joie de voir combien des gens qui étaient loin de Dieu sont venus à sa rencontre. Et j'ai beaucoup de voisins qui avaient un comportement d'endurci. Mais après ce tremblement, ils ont changé d'attitude. Et je peux comprendre pourquoi le psalmiste, dans le psaume 90, a écrit, le psalmiste Moïse, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. » Et notre Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il veut. Il nous appelle quand il veut, comme il veut. J'ai perdu mon père en la circonstance parce que deux jours après, il a eu un stroke qu'il a emporté. Un ACV. C'est de l'anglais, c'est vrai. Un ACV. Donc, mais je glorifie Dieu pour beaucoup d'âmes qui sont venus à la repentance après le passage du séisme. Et le travail d'Emmaüs continue à faire son chemin. Et même au niveau des cours par correspondance, nous voyons le nombre, nous voyons augmenter le nombre de nos étudiants. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ah oui. Mon ami avocat, lui, bon, il y a deux choses que j'ai oublié de dire, parce qu'il y a la contrainte du temps aussi. Et l'argent que j'ai déposé dans le coffre de ma voiture m'a servi, parce que les banques ont pris plus d'un mois pour se réouvrir leurs portes. Donc, ça m'a servi. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'a permis de le faire. Ça, c'est un élément clé du témoignage. Et l'ami avocat, son cabinet est effondré et tous les gens qui étaient dans son cabinet sont morts. Lui seul est épargné. Et encore, c'est grâce à Dieu, parce que le lendemain, il est venu et chez moi pour me remercier avec des larmes aux yeux. Je lui ai dit, non, mais c'est Dieu qui a planifié cela ainsi. Ce n'est pas à moi de remercier, mais c'est à Dieu d'adresser ces mots de remerciement, car c'est lui qui sait qui il doit épargner, qui il doit appeler en ce moment-là. Que Dieu nous garde et nous protège et qu'il nous fortifie et que nos yeux soient toujours fixés sur ce protecteur.
On va prendre juste un instant pour prier, puis après ça, on va demander notre frère Marc de nous adresser la parole. Maurice, pourrais-tu nous conduire dans la prière? S'il vous plaît, merci.
Bonsoir tout le monde. J'aurais aimé mieux entendre mon frère plus longtemps et moi parler 10 minutes, mais... C'est tout un témoignage de la souveraineté de Dieu, d'ailleurs. Et aussi, j'ai bien apprécié l'équipe de louanges. Quel bon chant ce soir qu'on a entendu. Alors, continuez votre bon travail au niveau des louanges. D'ailleurs, j'ai retenu... Certaines paroles des cantiques, j'espère que quand on chante, on prend le temps. C'est peut-être pas toujours le cas, parce qu'une fois, on tombe sur le pilote automatique quand on chante, là, mais quand même de faire attention aux paroles qu'on chante, parce que c'est des belles paroles, des paroles importantes. Le premier cantique, entre autres, on se rappelle peut-être pas qu'est-ce qu'on a chanté, mais on a chanté « Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre ». Deuxième cantique, ou cantique subséquent, on a chanté « Viens transformer notre attitude ». Alors, ça se tenait pas mal, vos chants, par le Saint-Esprit. Puis même un autre chant disait « Redonne la joie à mon salut ». Ça se tient pas mal, hein? « Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre ». Viens transformer notre attitude, qui a tendance à se plaindre. Puis « Redonne la joie à notre salut ». Oui, le péché vient enlever la joie de notre salut, mais il y a une autre chose qui vient enlever la joie de notre salut, c'est le mécontentement. Et c'est tellement facile, une fois qu'on est sauvé, oui, on fait peut-être moins de péchés dans notre vie, puis à chaque fois qu'on pêche, effectivement, on perd la joie de notre salut. Mais au quotidien, c'est facile de perdre la joie de la vie chrétienne à cause d'un mécontentement, pour différentes raisons. Et c'est pour ça que ce soir, je veux poser la question, es-tu content? Est-ce que je suis content? Et content, pas dans le sens d'heureux, parce qu'effectivement, on peut faire la déclaration la suivante, pour être heureux, il faut être content. C'est un petit peu niaiseux comme déclaration. Mais si on prend le mot content dans le sens de satisfait, es-tu satisfait dans ta vie? Il y en a, ils vont dire, ouais, je suis chrétien, je suis satisfait. Non, mais pose-toi la question vraiment, es-tu satisfait au quotidien? Es-tu heureux vraiment? Et à l'inverse, on peut se poser la question, es-tu mécontent? Insatisfait? Ceux qui étaient là la dernière fois que je suis venu, je pense, c'était à propos du roi Salomon, qui était mécontent, malgré qu'il fût roi, malgré qu'il avait du plaisir au bout, malgré qu'il possédait de grandes richesses et de grandes connaissances, alors que nous, comme chrétiens, on est appelés au contentement. Et c'est pour ça que ce soir, je veux vous amener à participer à une initiation. C'est le temps des initiations, le cégep commence, l'université, puis c'est pas toujours glorieux comme initiation, ça s'entend, là, mais on est dans l'époque des initiations. Puis je veux qu'ensemble, on participe à une initiation ce soir, et c'est l'initiation au contentement. On ne prendra pas le temps d'aller voir les textes de Timothée 6:6 et 6:8 qui nous parlent que si nous avons la nourriture et le vêtement, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. C'est un verset, c'est un texte qu'on devrait souligner dans nos bibles. Si on a la nourriture et le vêtement, écoutez, si on chiale pour autre chose que ça, on a un problème. Si au quotidien, on a la nourriture et le vêtement, puis je pense à nos frères en Haïti, qui sont dans les besoins essentiels, nous, au Québec, on a à apprendre à être contents avec ce qu'on a, pas à peu près. Puis il y a un autre texte dans Hébreux 13:5, on n'a pas le temps de lire, mais qui nous parle de se contenter de ce qu'on a, de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Quel vice québécois, québécoise, quel vice au Québec de rechercher le matérialisme, puis quelle tentation pour nous-mêmes, les chrétiens. Le contentement, c'est tout un sujet, puis on est appelé à être satisfait dans notre vie comme chrétien. On est appelé à dire que j'ai suffisamment, mais est-ce qu'on vit ça au quotidien vraiment? Où est-ce qu'on passe notre journée et notre semaine à chialer? Moi, j'aimerais donc savoir. Être insatisfait au fond de l'âme. Pourtant, on est chrétien. On a tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on voit ce soir, évidemment, un texte qu'on connaît bien par rapport au contentement. C'est dans Philippiens 4, et on va tourner dans notre parole de Dieu, dans notre Bible, Philippiens 4. Et on va voir un gars qui était content, lui. Puis pourtant, ses circonstances n'étaient pas terribles. Mais Philippiens 4, verset 10, on va aller voir l'histoire de l'apôtre Paul. Parce que quand on lit ce passage, et on va le lire ensemble, on s'aperçoit vite que c'est un homme content que ce Paul. Philippiens 4, 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Wow, ça commence bien. « De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris, encore le mot appris, à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et quel verset qu'on devrait souligner dans nos Bibles, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Wow. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Un autre beau verset à souligner, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je pense qu'on pourrait fermer nos bibles, puis même pas besoin de commentaires. C'est quel beau verset. Mais c'est bon de mettre ça dans le contexte. Et, on va voir aussi qu'avant de conclure cette lettre donc aux Philippiens, qu'ils l'aiment profondément, on voit que l'apôtre Paul veut leur exprimer sa gratitude pour leur bonté. Ils l'ont aimé depuis le commencement, puis récemment dans le contexte, ils ont eu l'opportunité de partager cet amour avec lui en envoyant Épaphrodite, comme on l'a vu au verset 18. Avec Épaphrodite, ils ont envoyé un certain don pour rencontrer ses besoins, peut-être de l'argent, peut-être de la nourriture, peut-être des vêtements. Ils lui ont envoyé des choses, en tout cas, dont il avait besoin. Et toute cette section entière des versets 10 à 19, c'est vraiment le remerciement de Paul pour ce qu'ils ont envoyé. C'est vraiment la fin d'une lettre pour dire merci pour ce que vous avez fait pour moi. Et tout le texte est voulu comme une déclaration finale de gratitude pour le don généreux reçu des mains d'Épaphrodite. Maintenant, comme je le disais, le contexte est important. Il faut se souvenir que Paul, quand il écrit ça, et ce n'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, vous savez, le contexte de Philippiens, mais peut-être c'est bon de se le rappeler. Paul est un prisonnier quand il écrit ça. Il est enchaîné à un soldat romain. Il est incarcéré probablement dans un petit appartement dans la ville de Rome. Il est en isolation. Il est incapable de bouger. Il a perdu la liberté de travailler, d'œuvrer dans le ministère à la capacité qu'il a déjà eue. Il est donc passablement en besoin, n'existant probablement qu'au simple niveau de la subsistance. Il est affligé par la difficulté d'être un captif. C'est quand même pas le Club Med là, dans ce temps-là, les prisons. Là, c'est aujourd'hui, moi, même à la prison de Trois-Rivières, quand ça chiale, on y est trop de prisonniers, franchement. En tout cas, petit commentaire éditorial. Et c'est sans doute la partie la plus triste de la vie de Paul jusque-là. Être enchaîné à un soldat, capable de toucher seulement quelques amis qui pouvaient le trouver, anticipant un procès devant Néron, c'est quand même, c'était pas Jojo, là, Néron, qui pouvait résulter en son exécution. C'est ce qui rendait cette période si difficile, une période éprouvante. Et ça, c'est le contexte. Et ses chers Philippiens, ayant entendu parler de son besoin, ont envoyé des dons, il leur exprime sa gratitude. Et là, on voit vraiment la première intention de ces versets-là. Mais avec vous ce soir, je vais voir plus loin que ça. Je veux qu'on gratte ces versets-là avec le temps qu'on a pour aller voir, découvrir le fait que Paul était, malgré les circonstances, un homme content. Alors, on trouve l'exemple de contentement dans ces versets-là qu'on a si désespérément besoin si on a à le suivre. Puis moi, je vous le dis, quand je me suis penché sur le sujet du contentement, c'est clair que dans ma vie, ce qui enlève ma joie souvent, c'est le mécontentement. On vit tous ça, jeunes et moins jeunes. Alors, je pense que c'est important de prendre quelque temps pour regarder ce sujet-là. Verset 11, on l'a lu tantôt, et c'est la clé du texte. « J'ai appris à être content. » Donc, il y a eu un apprentissage de Paul. Et on a à apprendre à être content. À travers les expériences de la vie, à travers la provision de Dieu, Paul a été mis dans un processus qui était maintenant complété. Il a appris à être content, puis il arrive dans ce contexte-là, en prison, puis il dit « J'ai appris à être content. » On a le témoignage d'un homme content, puis il n'y a pas de meilleure façon de voir ce contentement que de voir comment il gère ses propres détresses, et on en a tous des détresses dans nos vies, des angoisses, des inquiétudes, des déceptions. Puis c'est bon de voir aussi le contexte de ces dons qu'il reçoit de ces gens-là. Et j'attire votre attention au verset 12, où on a encore une fois le verbe « j'ai appris à ». Le mot grec a le sens d'initier à un mystère. C'est comme si Paul nous disait ce soir, j'ai été initié à un mystère. Et c'est là que je parle d'initiation. La Darby va dire, je suis enseigné, je suis initié. En anglais, c'est j'ai appris le secret. Paul est en train de nous dire ce soir, hey, j'ai appris le secret du contentement. Et ça colle avec l'idée d'initiation. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des gens de mon entourage qui étaient initiés dans les chevaliers de Colomb. Peut-être que vous en connaissez, vous avez connu ça. Les jeunes connaissent peut-être moins les chevaliers de Colomb. Mais ça a toujours été un mystère. Moi, ces gens-là qui étaient proches de moi, qui étaient initiés dans les chevaliers de Colomb, ils n'ont jamais été capables de me dire c'était quoi qui se posait là. Rien qu'eux autres, c'est encore un mystère en 2010. Puis ça doit être mes proches, ils ne veulent pas me le dire. Ils ne veulent pas me dire c'est quoi le signe. Peut-être que vous le savez. Mais ceux qui étaient initiés dans les chevaliers de Colomb, bien, c'était seulement eux qui savaient ce qui se posait là. Et c'est un petit peu cette idée-là. Il fallait rentrer dans les chevaliers de Colomb pour savoir leur secret, dans le fond. Et l'idée dans le verset 12, c'est ça. J'ai appris le secret, nous dit Paul. Le verbe « apprendre » porte justement l'idée d'être initié dans des religions mystérieuses, d'être initié dans des cultes païens, lesquels contiennent certains secrets que seuls les initiés peuvent connaître. Alors, Paul emprunte ce terme et dit « j'ai été initié dans les secrets du contentement ». En d'autres mots, j'ai appris le secret de vivre une vie contentée. J'aimerais ça savoir comment y arriver, moi. Puis c'est vrai qu'on regarde la vie de Paul, mais on regarde seulement ces textes-là dans le chapitre 4, verset 7, d'ailleurs, son recul, il parle de quoi? Il parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul avait cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Puis aussi, il avait ce Dieu de paix, il avait la paix de Dieu, il avait ce Dieu de paix, verset 9 aussi. Hein? Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous comme il est avec lui. Il avait la paix de Dieu, il avait ce Dieu de paix. Puis vraiment, Paul, au quotidien, expérimentait ce qu'il dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Ça aussi, on a besoin d'apprendre à s'inquiéter de rien. C'est de quoi, là? C'est quelque chose. Mais Paul était parvenu à le faire. Il était content, il était satisfait, il avait assez. Et quelle affirmation merveilleuse de quelqu'un, il dit « je suis content ». Le gars est enchaîné en prison, il attend quasiment à se faire exécuter, il ne reste pas grand espoir de toute façon. Il dit « je suis content ». Pourquoi Paul, tu es content? Paul, vous nous répondrez, mais parce que j'ai appris le secret. Alors ce soir, demandons à Paul ensemble, c'est… Peux-tu nous faire une faveur, Paul? S'il était ici, Paul dirait bien sûr. Bien, on lui demanderait à Paul, partage-nous ton secret. Parce que moi aussi, je veux être content dans ma vie. Et quel est le secret du contentement? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Non, on va y aller. On va en voir un bout ce soir. C'est ce qu'on va apprendre dans ces versets. Dans ces versets, on va vraiment apprendre le secret du contentement. Et comment c'est bon la parole de Dieu, parce que Dieu nous révèle ce qu'on a besoin de savoir. Puis ce qu'on n'a pas besoin de savoir, il ne nous le révèle pas en passant. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Tout ce qu'on a besoin de savoir est dans la parole de Dieu. Ce qu'on n'écrit pas dans la parole, on n'a pas besoin de savoir. Mais il avait à cœur le Seigneur, à travers Paul, de nous montrer c'est quoi le secret du contentement, parce qu'au quotidien, c'est essentiel pour être heureux dans notre vie chrétienne. Et ça sort directement de son cœur, Paul. Et on vit vraiment dans une société insatisfaite, de mécontentement. Seulement au Québec, hein, comment il y a des conflits de travail, comment il y a toutes sortes de revendications à gauche et à droite, puis on est mécontent. Puis comme de fait, il faudrait que bien d'entre nous, puis bien de ceux qui vivent au Québec, aillent vivre en Haïti pour voir c'est quoi. Vivre dans la pauvreté, vivre avec les besoins essentiels. Mais on vit dans un contexte qui nous influence comme chrétiens. Alors, posons-nous encore une fois la question honnêtement ce soir. Est-ce que je peux dire honnêtement que je suis content, quelle que soit ma situation? Puis ce qui est le fun avec le Seigneur connaît ta situation ce soir. Tu vis peut-être une déception, peut-être un deuil, peut-être une frustration, peut-être un… Tu es impatient de soit d'avoir un travail, soit d'avoir un conjoint, soit d'avoir quoi que ce soit. Puis tu es mécontent dans ton cœur. Et ça, on l'a chanté, hein, confessons nos péchés, confessons notre mécontentement aussi. Alors, posons-nous la question, est-ce que je suis content, quelle que soit ma situation? Est-ce que je peux dire ce soir que je suis content, quelles que soient les circonstances? Ah, quand ça va bien dans notre vie, c'est le fun d'être content, on s'entend. Est-ce que je suis parfaitement en paix, satisfait que je suis satisfait? Est-ce que j'ai assez dans ma vie? Si je ne peux pas dire ça ce soir, c'est que je n'ai pas obéi au commandement de Dieu d'être content. Alors, comment l'être? Alors, le premier ingrédient de la recette du contentement, elle est fondamentale. Il est fondamental, cet ingrédient-là, c'est la confiance dans la providence de Dieu. C'est la confiance dans la providence de Dieu. Et ça, c'est fondamental si on veut être content dans notre vie. Puis pourquoi je dis ça? C'est que le verset 10 nous parle de cette confiance dans la providence de Dieu. À première vue, ça ne paraît pas, mais ça va sortir du texte rapidement. On le lit au verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur lorsque vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Encore là, mettons-nous dans le contexte. Les commentateurs nous disent que 10 années se sont passées depuis que le dernier don des Philippiens lui a été envoyé. Alors imaginez, vous êtes en prison, vous avez travaillé pour ces croyants-là, et non pas que vous vous attendez à quelque chose en retour, mais on s'entend-tu qu'à quelque part, ça peut développer une certaine amertume de ne pas avoir de nouvelles de ces croyants-là pendant 10 ans, selon les commentateurs. 10 années se sont passées depuis que le dernier don des Philippiens lui a été envoyé, 10 ans depuis qu'il est arrivé à Philippe, 10 ans depuis qu'il avait prêché là-bas, 10 ans depuis qu'il a été jeté en prison, 10 ans depuis que le tremblement de terre, on a parlé ce soir, a libéré tous les prisonniers, 10 ans depuis que le geôlier de Philippe s'est converti à Christ, lui et toute sa famille, 10 ans depuis qu'il a quitté Philippe pour se rendre à Thessalonique et que les Philippiens lui ont alors donné un certain soutien, 10 ans depuis qu'il a quitté la Macédoine pour l'Achaïe, les cités d'Athènes et de Corinthe, et les Philippiens lui ont donné un autre don à ce moment-là après qu'il l'eut quitté. 10 ans depuis la dernière expression de leur amour, lui qui fut le fondateur de leur Église, ils avaient un lien d'amour, mais pour 10 ans, il n'y a pas eu de soutien. Puis lui est en prison. Mais c'est ça la beauté de la chose, dans le contentement. C'est ça la beauté de la chose, d'avoir confiance dans la providence de Dieu, que c'était, malgré le fait qu'il n'avait pas eu de don pendant 10 ans des autres, c'était correct pour Paul. Il comprenait ça même, il dit, « Je sais que ce n'était pas parce que vous n'y pensiez pas, verset 10, imaginez. » Il n'a pas écrit « gang d'ingrats ». Ça fait 10 ans que je sèche en prison, pas une nouvelle de vous autres. Il me semble que j'aurais fini la lettre en disant « PS, vous n'êtes pas fort ». En tout cas. Mais il va dire, Paul va même dire « vous n'aviez juste pas l'opportunité de soutenir ». Il leur impute même pas des mauvais motifs, il leur impute des bons motifs. Il dit, vous n'avez pas eu l'occasion de m'en donner, c'est ça le problème. Je sais que vous vouliez m'en donner. Mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps, dans le sens d'un temps chronologique. Puis on ne sait pas si c'est à cause de leur pauvreté qu'ils ne l'ont pas faite, ou s'ils ne connaissaient pas quels étaient les besoins de Paul, ou c'est parce qu'ils n'avaient plus le retrouver, mais Paul leur dit, je ne vous en veux pas, je ne vous en fais pas de reproches. Il dit, je comprends. Vous n'aviez juste pas l'occasion jusqu'à tout récemment. Et jusqu'à tout récemment, c'est jusqu'à ce qu'Épaphrodite parvienne à lui faire parvenir ce don-là. Et c'est pour ça qu'il dit « Sa joie était grande » au verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression. » Enfin, soit dire « enfin, c'était le temps. » Mais enfin, vous avez eu l'occasion d'exprimer vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, regardez, mais l'occasion vous manquait. Donc, Paul, il ne ramassait pas, il disait, je comprends. Et ça prend quelqu'un qui a une parfaite confiance dans la providence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était content. Le point de tout ça, dans le fond, et on va y aller rapidement, c'est que l'apôtre Paul, pour parler comme ça, c'est clair qu'il avait une confiance patiente dans la providence souveraine de Dieu. Puis on voit ça tout au long de sa vie. Paul pouvait se priver d'eux, il pouvait s'attendre au Seigneur, puis être content. Puis c'est ça qu'on doit apprendre comme chrétien. C'est nous aussi, on doit faire ça, faire confiance au Seigneur, quitte à se priver d'eux, puis être content en attendant. Il savait que c'était tout dans les mains de Dieu et que si Dieu accordait une saison appropriée, un temps approprié, une opportunité appropriée, que ces choses qui devraient être exprimées le seraient. Moi, ce que je trouve fantastique dans le cas de Paul, c'est qu'on ne voit pas de panique dans son cœur. Comment moi, je panique souvent? Je ne prends pas grand-chose de paniquer en passant. Mais il n'y avait pas de panique dans son cœur. Il n'y avait pas de don, il n'y avait pas de don. Pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait confiance dans la providence de Dieu souveraine. Dieu contrôle toutes choses. On l'a vu avec notre frère en Haïti. Contrôle qui est préservé, qui ne l'est pas. Contrôle les événements, contrôle les heures. On l'a vu dans le témoignage de notre frère. C'est fantastique d'avoir un Dieu comme ça. Il ne se trompe jamais. Et c'est lui qui contrôle ta vie, qui contrôle ma vie. Alors, le premier ingrédient pour être content dans notre vie, c'est de réaliser qu'on a un Dieu souverain et de faire confiance à sa providence souveraine qui va pourvoir au bon moment, à la bonne occasion. Je ne pense pas que personne n'a manqué de rien aujourd'hui. Vous avez semblé avoir mangé toute la gang, peut-être même plus que besoin. On est tous vêtus, heureusement. Mais on a tout ce qu'il faut. Nourriture, vêtements, gloire à Dieu. Puis pour le reste, on lui fait confiance pour nos autres besoins dans notre vie. Il n'y avait pas de panique dans le cœur de Paul. Puis ce que j'aime de Paul, c'est qu'il n'y avait aucun besoin de manipuler les gens pour recevoir des dons. Il n'y avait pas de serrage de vis pour obtenir de quelqu'un quelque chose. S'il y a quelqu'un qui aurait pu se servir de son titre d'apôtre, puis d'envoyer une lettre aux Philippiens, dire « Cher Philippiens, en passant, vous m'avez oublié depuis quelques temps. » Ça ferait du bien d'avoir de l'argent un petit peu. En passant, c'est moi qui étais le fondateur de votre église. En passant, je suis un apôtre qui a eu une vision extraordinaire un jour. Pas grand monde qui a eu ça. J'aurais peut-être des besoins, s'il vous plaît. Paul n'a jamais serré la vis à personne pour recevoir de l'argent. Paul n'en envoyait pas, comme aujourd'hui, malheureusement, des lettres culpabilisantes du genre « Je n'ai que 60% de mon soutien. » Envoyez-moi le 40% puis ça presse. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Je n'ai pas rien contre le fait qu'on doit se faire savoir nos besoins. Moi, vous entendez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, je trouve qu'on a souvent des manières culpabilisantes d'essayer d'aller siphonner de l'argent du monde. Paul s'est toujours gardé d'être à la charge des autres. Dans 2 Corinthiens 11, 9, il dira même « En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. » Pourquoi il disait ça? Parce que Paul, lui, était certain que Dieu, au moment opportun, arrangerait les circonstances pour que son besoin soit rencontré, puis c'est le même Dieu pour nous autres ici. Paul ne faisait pas de levée de fonds, encore là, je n'ai rien contre les levées de fonds, c'est les circonstances, les levées de fonds, mais on s'entendu que Paul, il s'en remettait à Dieu. Complètement. Il savait qu'il n'y avait rien de négatif entre lui et les Philippiens, ce n'était pas une question de conflit, pourquoi il n'y a pas eu d'argent pendant 10 ans? Mais il n'a pas senti la responsabilité d'essayer de résoudre un conflit. Il n'y en avait pas. Il ne faisait qu'attendre patiemment jusqu'à ce que le Seigneur fasse arriver les choses. Ce qui m'amène à approfondir. Doug m'a donné 5-10 minutes de plus, donc soyez calme. Pour toute plainte, vous allez voir monsieur en arrière, habillé en noir. Ce qui m'amène à prendre quelques instants pour approfondir avec vous le concept de providence. Parce qu'on dit de faire confiance à la providence souveraine de Dieu. C'est quoi la providence? Donc, la raison pour laquelle Paul était content, c'était qu'il savait que les temps, les saisons, les opportunités de la vie étaient contrôlées par un Dieu souverain. Puis, mes amis, tant qu'on ne réalisera pas ça dans nos vies, on ne sera jamais content. Tant qu'on ne réalisera pas que notre Dieu est en plein contrôle des temps, des saisons, des opportunités de la vie, on ne sera jamais content. Jusqu'à ce que tu viennes à la place dans ta vie où tu comprends que Dieu est souverain et qu'il commande toutes choses pour ses propres buts saints et qu'il fait concourir toutes choses selon le conseil de sa propre volonté et qu'il fait marcher toutes choses ensemble pour le bien, jusqu'à ce que tu comprennes et que je comprenne ça, nous serons toujours mécontents. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas ça, on va prendre la responsabilité d'organiser notre vie puis d'ordonner notre propre vie, puis là, on va se frustrer nous-mêmes parce qu'on ne sera pas capable de contrôler toutes choses. Et c'est dans le propre de l'être humain d'essayer de contrôler nos affaires sans Dieu. C'est le propre de l'être humain pécheur. Je vais essayer d'organiser ma vie à ma façon. La parole est claire, la volonté de Dieu est claire dans sa parole. Non, mais je vais organiser ma vie. Là. C'est là qu'on parle, hein, parfois, j'ai hâte d'avoir un job, j'ai hâte d'avoir un conjoint, puis là, je vais m'organiser pour en avoir un, puis, une job, puis à ma façon. Puis on n'attend pas le temps de Dieu, on ne lui fait pas confiance. On lui fait confiance pour nous sauver de l'enfer éternel, mais on ne lui fait pas confiance pour des affaires plus banales que ça. Intéressant. Paul avait un contentement étonnant et s'est bâti sur l'idée qu'il n'y avait jamais eu une opportunité, jamais eu une occasion. En d'autres mots, Dieu n'avait jamais providentiellement rendu ça possible qu'il y ait des dons avant ça. Il y a un calme tranquille dans cette sorte de foi, et si je crois que Dieu est souverain, et il l'est, si je crois que Dieu ordonne toutes circonstances pour accomplir ses propres buts, alors je peux être content à toute chose parce que toute chose est sous son contrôle. Dieu n'est jamais hors contrôle. Le mécontentement vient quand nous voulons contrôler toute chose. C'est vrai, des fois, il nous arrive des circonstances, des épreuves dans notre vie, puis on panique, puis je panique, puis on essaie de régler ça nous autres mêmes, puis comment, au lieu de prier, puis faire confiance à Dieu. Et quand on est mécontent, c'est habituellement un résultat direct d'un manque de compréhension que toutes choses sont déjà sous contrôle et que quelqu'un meilleur que vous et moi est au contrôle, et c'est Dieu. Paul avait pleinement confiance que Dieu est en charge et ordonnerait les événements pour rencontrer ses besoins. C'est pour ça qu'il parle comme ça au verset 10. Aucun reproche. Je savais que vous vouliez que. Et c'est pour ça que je vais prendre 5 minutes pour parler de la providence. C'est un terme qui indique que Dieu pourvoit. D'ailleurs, en anglais, on a le mot « provide » qui colle bien au mot « providence ». Alors oui, ça veut dire que Dieu pourvoit, mais c'est plus que ça. Ça veut dire que, non seulement que Dieu pourvoit, mais c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'il orchestre toutes choses pour accomplir son but. C'est ça qui me fait renverser. Moi, je suis allé voir dernièrement, je prends quelques secondes, chez IMAX, cinéma IMAX à Québec, c'était le télescope Hubble, pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça, où le télescope Hubble sonde les confins de l'univers. On s'est entendu qu'il ne peut pas aller bien loin, mais ce qu'ils peuvent voir, là, moi, ça m'a vraiment ému de voir ça. Il y en a qui vont dire qu'ils broyent pour voir un télescope, en tout cas. Ça en cible un peu le gars, mais... Non, mais c'est vraiment extraordinaire de voir que Dieu a créé tout ça, puis c'était tout organisé, tout contrôlé. Tout ça en même temps, tout simultanément, puis l'infiniment grand. Puis dans l'autre film, IMAX, c'est des poisons dans la main. Tu sais, la création est déjà extraordinaire. C'est pour ça que les gens sont inexcusables devant la création. C'est sûr qu'il y a un grand Dieu créateur derrière la création. Puis, mais de voir tout ça organisé, puis la providence, c'est ça, c'est que non seulement Dieu pourvoit, mais Dieu orchestre toutes choses pour accomplir son but dans nos vies. On va essayer de voir rapidement. Essayez de comprendre ça par contraste. Dieu, et moi, j'ai été renversé de réaliser que Dieu agit de deux façons dans le monde. Il y a deux façons par lesquelles Dieu agit. L'un, c'est par miracle, puis l'autre, c'est par providence. Si Dieu veut faire quelque chose dans ce monde, il y a deux options. L'une d'elles, c'est le miracle. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a un miracle? Il arrête le cours naturel des choses et injecte un miracle. Il n'y a pas d'explication naturelle. On en voit plein dans les évangiles. Ça n'a rien à voir avec ce qui est normal. Ressusciter quelqu'un des morts, ce n'est pas normal. C'est un miracle. Guérir quelqu'un comme il le faisait. Dieu peut intervenir dans l'histoire, arrêter le cours normal de l'histoire et faire un miracle. La Bible est remplie de miracles. Puis ensuite, ramener le cours à sa place, comme il l'a fait en stoppant la mer Rouge jusqu'à ce que son peuple puisse le traverser à sec. Il arrête le cours naturel des choses, injecte ce qui est surnaturel, et ensuite laisse les choses poursuivre à nouveau leur cours. C'est un miracle, une invasion du naturel qui cause le naturel de cesser et envahi par le surnaturel. Donc, un miracle, c'est une façon de faire de Dieu. Dieu peut agir par des miracles. Il arrête le cours naturel de quelque chose, puis il injecte un miracle. Mais Dieu agit d'une autre façon aussi. Il y en a deux. Si ce n'est pas le miracle, c'est la providence. La façon que Dieu agit est de prendre tous les divers éléments du normal, du quotidien, puis les orchestre pour accomplir son propre but à lui. Ça, c'est quelque chose. Et si on se demandait ce soir laquelle des deux façons nous semble la plus difficile, mais avec Dieu, rien de difficile, on s'entend, mais humainement parlant, c'est de faire un miracle comme ça, ou d'orchestrer toutes sortes d'éléments inimaginables puis infinis pour son propre but à lui et pour ma propre petite vie à moi, puis de faire la même chose en même temps dans ton cas, dans ton cas, dans ton cas, dans ton... De tout coordonner tous ces événements, puis comment c'est extraordinaire. Des fois, on prie pour quelque chose, puis là, on rencontre la personne. Tu sais, des fois, rencontrer quelqu'un, j'ai rencontré Benoît cette semaine dans un restaurant, c'est pas que c'est un miracle, mais... en passant, il est encore en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, des fois, tu dis... Nous autres, dans le monde, ils vont dire, hey, quel hasard que j'ai eu de rencontrer cette personne. J'ai rencontré mon frère l'autre fois à sa piste cyclable. Finalement, je ne travaille pas souvent, regarde ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu rencontres quelqu'un, puis tu aurais eu une chance sur un milliard de rencontrer cette personne-là dans une circonstance X, puis le Seigneur fait coordonner tout ça, puis répond à nos prières. Tu sais, là, la prière, c'est extraordinaire, il répond à nos prières. Puis pour répondre à nos prières, il va faire coordonner des événements incroyables en même temps. C'est ça, la providence, pour ma propre petite vie, qui est bien petite quand je vais voir justement... l'univers infini. Alors, entre faire un miracle comme ça, puis coordonner tout ça ensemble, c'est sûr que pour Dieu, rien de difficile, mais la providence, c'est tellement extraordinaire. Il pourvoit mes besoins. Ça doit être facile pour Dieu de dire, un instant, je veux faire ceci et le faire, surtout que, comme le dit le psaume 33,9, il dit, la chose arrive. Mais c'est beaucoup plus facile que de dire, voyons, j'ai 50 milliards de circonstances que j'ai à orchestrer pour accomplir cette chose. C'est ça, la providence. Et c'est ça qui me renverse de mon Dieu, de notre Dieu. Alors, écoutez bien ceci, et j'achève vraiment, parce que je vais fermer les lumières, de toute façon, au pire. Quand on vient à comprendre qu'un Dieu souverain n'est pas seulement souverain par intervention surnaturelle, mais qu'il est souverain par orchestration naturelle dans nos vies quotidiennes, on a confiance à un Dieu comme ça. Puis là, on est content. Parce que je sais que Dieu est en contrôle. C'est fantastique. La personne contente est la personne qui sait que Dieu met toutes choses en ordre ou ordonne toutes choses pour son propre but à lui, en passant. Mais on est des bénéficiaires de sa souveraineté. Et là, on est content. Et Paul n'était pas frustré. Il dit, vous n'aviez juste pas l'occasion, ce qui veut dire que Dieu n'a jamais permis que ça arrive avant. Comprenez ça, Paul, que Dieu était souverain. Il n'avait pas eu de don avant. Il n'avait pas eu de don avant. Et si Dieu ne l'a pas fait arriver, ce don-là, ce n'est pas arrivé. Et si Dieu avait voulu que ça arrive, ça aurait arrivé. Ce n'est pas du fatalisme. C'est une confiance en la providence. Et une des plus belles illustrations de la providence dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Joseph. Il s'agit là de l'une des plus grandes histoires de l'orchestration des circonstances providentielles de Dieu pour atteindre son propre but. Joseph l'a reconnu dans Genèse 50-20, il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Wow! L'histoire de Joseph, c'est extraordinaire, de se faire vendre par ses frères, puis se ramasser, il y a l'autre bout, puis injustement accusé, puis en prison, puis envoyé par là, mais regardez, au bout de la ligne, ce qui est arrivé, c'est la providence de Dieu, ça. Sur des années, en plus. Vive la providence de Dieu. On a une bonne raison d'être content, d'être satisfait quand on a un tel Dieu. On pourrait lire l'histoire d'Esther, une autre évidence de la providence de Dieu, lire l'histoire de Ruth, une autre évidence de la providence de Dieu. Les Écritures sont remplies de telles illustrations. Il reste deux paragraphes, soyez calme. Pas d'émeute. Paul était pleinement confiant que Dieu était en charge. C'est ça la leçon. Paul était pleinement confiant que Dieu était en charge. Et ce soir, on a besoin d'apprendre, première leçon, que aussi Dieu est en charge de ma vie. Il devrait être content. Ah, ça va mal, ah, les circonstances, ah, les déceptions, ah, les... Ah, mais Dieu est fidèle. Je suis sauvé, j'espère pour tout le monde. Ça ne fera que passer. Hein? Les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Puis aussi longtemps que Dieu était en charge et que Dieu ordonnait toutes choses pour son propre but, toutes choses allaient être correctes. Alors, il était content, Paul. C'est là que le contentement commence. Tu ne connaîtras jamais un cœur content jusqu'à ce que tu crois qu'un Dieu souverain t'a ordonné toutes choses pour ton bien et pour sa gloire. Puis une fois que tu en viens à cette conclusion, que ça trouve un chemin dans ta façon de vivre, tu vas expérimenter le contentement et je vais l'expérimenter aussi. Pas avant d'avoir reconnu cela, toutefois. Aussi longtemps que tu sens que des choses sont hors contrôle et que tu dois les saisir pour faire arriver les choses, tu as un problème parce que tu vas te frustrer toi-même dans le processus. Tu travailles aussi fort que tu peux et tu es content que Dieu est en contrôle des résultats. C'est ce qu'on a à faire. On a à faire ce qu'on a à faire, mais on laisse le reste à Dieu. C'est ça le contentement. Paul avait ça. Il savait que le Dieu qui l'aimait mettre en ordre, il savait que ce Dieu-là aimait mettre en ordre tous les événements de sa vie. Je termine avec une citation de John MacArthur. Il dit ceci: « Chaque fois que je vois une personne mécontente, ma première réaction est de leur donner une leçon sur la souveraineté de Dieu. » Je trouve ça beau. Je n'essaye pas à patcher leur mécontentement avec une certaine sorte de conseil, mais de parler au sujet du Dieu à qui, de toute évidence, ils ne font pas confiance ou ils ne connaissent pas, qui ordonne toutes choses selon son propre plan. Et c'est pourquoi toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, parce qu'il est en charge. » Fin de la citation. Bon. Je trouve ça bon. Chaque fois que je vois une personne mécontente, ma première réaction est de leur donner une leçon sur la souveraineté de Dieu. On va terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, tellement riche, tellement profonde, tellement pratique. Et l'exemple de Paul qui, dans des circonstances qui nous auraient possiblement découragés, déprimés, d'être emprisonnés, ça aurait été une cause désespérée à vue humaine. Mais on voit un Paul content, puis même privé de dons pendant des années par un groupe de croyants qu'il avait formé, qu'il avait fondé, qu'il avait enseigné, comment il aurait pu développer de l'amertume, qu'il aurait pu utiliser son titre d'apôtre pour leur faire des reproches, même pas. Il savait que tu avais toutes choses en contrôle et que si ça n'avait pas été avant ça, c'était que tu le voulais comme ça. Seigneur Dieu, apprends-nous à être contents dans nos vies. Déjà, il y a d'autres textes qui nous montrent ce soir qu'en ayant la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. Et qu'on ne devrait pas se livrer à l'amour de l'argent, mais de se contenter de ce qu'on a. Puis Père, si on est des croyants ce soir, sauvés par ta grâce en Jésus-Christ, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et Père, apprends-nous à être contents. Paul a utilisé cette expression « apprendre à être content ». Apprends-nous le secret. On a vu un ingrédient ce soir, il y en a tellement d'autres dans ces textes, pour être content dans nos vies. Et Père, peut-être pas une grande doctrine révolutionnaire ce soir qu'on a vu, mais c'est tellement ça qui enlève notre joie que d'être mécontent. Et rends-nous des enfants contents. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour ta gloire. Amen.